Lise y présente L'Axe du Loup. De la Sibérie à l'Inde, sur les pas des évadés du goulag. De Sylvain Tesson. Lu par Damien Viteka. À Priscilla Telmont. En voyage, on devrait fermer les yeux. Blaise Cendrars. Que ma patrie soit la Russie est une des grandes et mystérieuses certitudes dont je vis. Rainer Maria Rilke. Les pendus sont pendus, mais le bagne, c'est horrible. Pushkin. Chapitre 1. Paris-Berlin-Yakoutsk. Mai. C'est triste un train qui part pour Berlin. Surtout quand on est dedans. J'ai quitté mon appartement parisien tout à l'heure. J'ai gagné la gare du Nord en métro. Je trouvais ça chic de prendre le métro pour aller en Sibérie. Le guichetier à qui j'ai demandé un aller simple en première classe pour la gare du Nord m'a répondu qu'on n'était pas il y a 100 ans et j'ai pensé que j'aurais bien aimé. Quelques amis sont là, sur le quai. Je leur crie avec une voix de soldat des années 1940 qui pense être de retour dans 3 semaines.
« Ich fahre nach Berlin !»
Personne ne trouve ça drôle. Le train de l'Allemagne s'ébranle. Je m'allonge sur ma couchette. Je pioche au hasard dans le gros sac de livres que j'ai pris soin d'emplir jusqu'à la gueule, de la brièveté de la vie, Sénèque. Je suis superstitieux avec le titre des livres. Je ne l'ouvre pas, je m'endors, et le matin, c'est Berlin. Quiconque possède quelques heures à Berlin doit aller visiter le musée du mur. J'y passe l'après-midi avant d'attraper le train de Moscou. Il y a une salle consacrée aux évasions. Pour passer à l'ouest, des gens se sont cachés sous des moteurs de voiture, dans des valises ou des rouleaux de câbles, dans des cabas ou sous des uniformes soviétiques. Un père de famille a fait glisser son fils le long d'un câble tendu de l'autre côté de la démarcation. Une famille a passé des années à confectionner une montgolfière dans sa cuisine. Un nageur a traversé la Baltique avec un propulseur sous-marin de sa fabrication. Une mère a jeté son bébé par-dessus le mur. Des complices avaient placé un matelas préalablement. Beaucoup ont sauté d'immeubles de plusieurs étages qui donnaient directement sur la frontière. D'autres ont creusé des tunnels de 150 mètres étayés par des criques de voitures. On se croirait au concours Lépine de la liberté. L'évasion est source d'ingéniosité, dit d'ailleurs la pancarte à l'entrée des salles d'exposition. Assez souvent, ces évasions bricolées dans les arrière-cuisines des appartements communautaires de Berlin-Est réussissaient. Alors, quelques heureux fugitifs triomphaient de l'obsession des commissaires de l'Est à traiter les peuples comme des canaris, à leur confectionner des cages. Le train marche à présent vers la Pologne, puis traverse la Biélorussie et la Russie occidentale. Même plaine et même nuit de part et d'autre des frontières. Seul change l'aigle qui frappe les insignes des douaniers. Il n'a qu'une tête chez les Allemands, une seule chez les Polonais, mais 2 chez les Russes. Tant de sang depuis tant de siècles sur les landes de Masurie et de Silésie pour débrouiller cette question de savoir quel était celui de ces rapaces qui devait contrôler la Pologne. À Moscou, je reste le temps de faire 2 choses. D'abord, me recueillir devant la statue de Vladimir Vysotsky, le poète qui chantait la liberté avec de la limaille de fer dans le gosier, et ensuite, manger 2 kilos de caviar arrosé à la bière Baltica numéro 3 chez Jacques von Polir, mon ami, qui, en son temps, s'enfuit à travers l'Eurasie à bord d'une Lada Niva, laquelle n'aurait normalement pas dû être capable de dépasser la Franche-Comté. De nouveau, le train à destination de Nyerungri, Sibérie. Le trajet dure 1 semaine, via Novosibirsk. Je reste couché dans ma cabine, la majeure partie de la journée. Par la fenêtre, je regarde défiler les bouleaux. Ils sont le signal d'alerte du début des terres slaves. Un bouleau en cache toujours un autre, et ce drôle de petit jeu se prolonge jusqu'au Pacifique. Le transsibérien, ce sont 2 rails parallèles posés devant soi sur des milliers de kilomètres par décision du tsar, à une époque où rien ne justifiait qu'on fît un détour pour contourner une isba ou un village qui se serait trouvé sur le tracé. Donc, ça va tout droit. La plaine passe et chaque minute est fidèle à la précédente. Von Paulus, un jour que son Panzer rendait l'âme, embourbé dans une fondrière, sortit la tête par la tourelle et, retirant son casque, soupira
« En Russie, il n'y a pas de route, il n'y a que des directions. »
Un soir, la nuit ne tombe même plus car nous sommes à la fin de mai et abordons les hautes latitudes. Un demi-jour laiteux fait la soudure entre le crépuscule et l'aube. Lors d'une halte, deux Russes montent dans mon compartiment, Nina et Sergueï. Ils reviennent de 3 semaines de repos dans un sanatorium du Kazakhstan. Ils grimpent dans le train en traînant un sac militaire rempli de vivres. Ils mangent sans repos. Ils engloutissent les saucisses. Ils se ruent sur le sein doux. Ils avalent tout ce qu'ils peuvent. Ils boivent une bière tiède dans des bouteilles à l'étiquette frappées de cette promesse « pas moins de 6 degrés d'alcool ». Ils m'invitent à les aider. Le sac est gros et ils ont l'air de vouloir le vider avant le terminus, dans 3 jours. Ils se réjouissent de me gaver. Je n'ose plus descendre de ma couchette, de peur de me retrouver coincé entre eux, forcé à baffrer. Parfois, je trouve refuge au wagon-restaurant où Ludmila la blonde, grosse et saoule comme une barrique, s'acharne à me servir des verres de vodka au lait, aussitôt que j'ai fini le bortsch. Et quand, repu et un peu gris, je pousse la porte de la cabine pour regagner ma couchette, Nina et Sergueï sont là, assis devant une gamelle de purée fumante, intacte.
« On vous attendait pour commencer !»
Déjà 11 jours écoulés depuis Paris. Sandra prétend que le train fait « broum, roum, roum ». Je penche plutôt pour un rythme à 4 temps, comme dans la fameuse mesure du Roméo et Juliette de Prokofiev. Tan, taran, tatan, taran, tatan. Dedans, les heures se dissolvent dans la torpeur. Dehors, les boues se mélangent dans le Rasputitsa, qui est la période de dégel. Le transsibérien, c'est la débâcle du temps. Je plonge dans une sorte d'hibernation ferroviaire. Paresse où je me vautre avec délectation, sachant ce qui m'attend dans les mois à venir. Je me repose tellement pendant la journée que je n'ai plus assez de fatigue pour dormir la nuit. De gigantesques incendies qui dévorent la taïga sur des millions de kilomètres carrés ajoutent à la demi-clarté l'éclair des brasiers. Le train, parfois, rentre dans des nuits de fumée blanche qui piquent les yeux jusqu'à l'intérieur des compartiments. C'est à la double lueur des flammes et de la clarté nocturne que je lis dans un journal l'histoire d'Aaron, jeune montagnard victime d'un accident dans les Rocheuses américaines le mois dernier. Un bloc lui a roulé sur le bras droit alors qu'il escaladait un ravin. Il est resté coincé 3 jours au bord du vide, les chairs écrasées sous le roc. Jusqu'au moment où il s'est résolu à se couper le bras à l'aide d'un petit canif. Il raconte avoir eu du mal. D'abord les chairs, puis les tendons et l'os pour finir. Puis, manchot, sanguinolent, il est redescendu vers la vallée. En voilà un bon garçon et une belle histoire. Parfaitement ce qu'il me faut. De la détermination, du mépris pour le corps et enfin, de la volonté d'avancer, toujours, quoi qu'il advienne. Un matin, alors que Sergueï et Nina attaquent un second poulet fumé, une étrange luminescence chasse l'éclat d'acier de l'aube. Je regarde par la fenêtre du train. C'est le Baïkal qui agit comme un réflecteur géant et renvoie au ciel les rayons du soleil tirés au travers des nimbus. La ligne contourne le lac par le sud, vers Tchita. Dans quelques semaines, si tout se passe comme je le veux, j'avancerai à pied au bord de la rive orientale du Baïkal. Je remonte sur mon bas-flanc et je réfléchis. Pour la première fois depuis des mois, je sens monter la peur en moi et le martèlement des roues du train sur l'acier des rails l'enfonce à chaque coup comme un clou dans le cœur. Trop d'arbres dans cette taïga, trop de blancheur dans les bosquets de bouleaux, trop d'écrasements sous les ciels. Et que dire de cette plaine sans bornes, plus terrible qu'une prison, car ici, devant l'horizon, il n'y a même pas où fuir. Je feuillette « À marche forcée » de Slavomir Ravitch, le livre que je connais par cœur et auquel je dois de me trouver ici, allongé sur la couchette du haut parmi les effluves de poulet, dans un train russe lancé vers l'est à travers la grande forêt sibérienne. J'ai découvert « À marche forcée » dans une édition de poche des années 60. J'avais 15 ans et je vécus avec ce récit la première de ces nuits par la suite sacrifiée tout entière à la lecture de Céline, de Lawrence, de London, d'Amsoun et des romanciers russes.